Jérémy Narby, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes ethnologue de formation, québécois d'origine, et vous vivez en Suisse. Vous êtes l'auteur de 3 livres, Le Serpent Cosmique, une anthologie du chamanisme, et un livre qui s'appelle L'intelligence dans la nature. Et depuis 1989, vous êtes salarié d'une association qui s'appelle Nouvelle Planète, dont vous nous parlerez un peu plus tard. Et l'an dernier est également paru un livre qui retrace une conversation avec Yann Kounen et Vincent Ravalek autour de l'ayahuasca, qui est une combinaison de plantes faisant partie de la pharmacopée indigène, hein ?
Oui.
Bon. Alors ma première question, donc on va aller dans l'ordre des choses. Dans votre premier livre, Le Serpent Cosmique, qui a lancé donc votre carrière publique, vous émettez une hypothèse, c'est-à-dire que la structure à double hélice de l'ADN, telle qu'elle a été configurée par des scientifiques, ressemble étrangement aux visions de serpents entrelacés sous ayahuasca, donc chez les peuples indigènes. Qu'en est-il donc de cette hypothèse quelques dizaines d'années après ?
Disons 15 ans plus tard.
Oui.
L'hypothèse est toujours là et on ne peut pas dire qu'il y ait eu une ruée de scientifiques qui se soient précipités sur cette hypothèse pour la tester. Mais par contre, il y a eu toutes sortes d'observateurs qui ont fait l'expérience de l'ayahuasca, c'est-à-dire il y a 15 ans, peu de monde en avait entendu parler.
Mmh.
Mais maintenant, il y a un grand nombre de personnes qui en ont fait l'expérience et qui confirment d'abord et avant tout que les serpents sont la première vision que les gens ont statistiquement. Alors, est-ce que ces serpents hallucinatoires ont une correspondance avec ce que les scientifiques appellent ADN ? La question reste ouverte, me semble-t-il.
C'est une hypothèse qui avait été à la fois acclamée, mais aussi beaucoup critiquée par certains scientifiques.
D'abord, c'est fait pour être critiqué.
Mmh.
Finalement, ça met en rapport deux façons d'aborder le monde qui ont été jusque-là séparées, mais qui sont compatibles, on pourrait dire, au niveau du contenu. C'est-à-dire que tant les chamans que les biologistes affirment qu'il existe un monde proche de nous qui nous sous-tend, qui est invisible à nos yeux normaux et qui nous relie aux autres espèces de la planète qui font que nous avons une parenté avec les plantes et les animaux et tous les autres êtres dans ce monde. C'est-à-dire que la biologie moléculaire confirme l'animisme au niveau des données de base sur la nature de la nature, ce qui n'est quand même pas rien.
Vous êtes de ceux, donc, dans le cadre de votre travail notamment ethnologique, qui avaient contribué, donc avec d'autres personnes, à revaloriser et à redonner donc toute leur dimension sacrée aux chamans, au peuple donc primitif. Mais à la différence donc de Castaneda, donc un auteur bien connu qui a surfé sur la vague New Age en période des années 70, vous n'avez pas pour autant basculé dans le système de représentation chamanique comme lui l'a fait. Préférant, donc restant basé en Occident, créer des ponts avec les indigènes, notamment dans le cadre d'une activité salariée. C'est au sein donc d'une association qui s'appelle Nouvelle Planète, c'est ça ?
Oui.
Et donc afin de préserver, de sauvegarder la culture indigène, quelle forme cette activité prend-elle et pour quels résultats, puisque maintenant ça fait plus de 20 ans que vous travaillez pour eux, je pense ?
Oui. Bon, c'est vrai que concrètement, ça revient à être un traducteur entre les initiatives des peuples indigènes de l'Amazonie et des fondations et des organisations écologistes ici en Europe. La connexion étant que si vous voulez sauvegarder la forêt tropicale, vous gagnez à collaborer avec les peuples indigènes qui y résident et qui la connaissent mieux que quiconque.
Mmh.
Leur première revendication était d'établir l'intégrité de leur territoire et obtenir des titres fonciers pour leur territoire. Et grâce au travail que nous avons fait, quelques 4 millions d'hectares ont été démarqués et titularisés au nom des communautés indigènes de l'Amazonie. C'est une surface équivalente à la Suisse ou à un 14e de la France.
Mmh.
L'Amazonie péruvienne dans son ensemble est grande comme la France, donc c'est quand même une région conséquente. Ces peuples, au cours des derniers 20 ans, ont obtenu quelques 13 millions d'hectares, ou 20% de l'Amazonie péruvienne, est maintenant délimité en quelques 1200 communautés, et dont la propriété de la terre appartient à ces communautés. Donc ça, c'est le premier résultat concret de ce genre de travail. Mais ensuite, il y a eu, à partir du moment qu'ils ont eu le contrôle de leur territoire, ils ont voulu mettre en place des programmes en faveur de la préservation de leur culture, c'est-à-dire de transmettre la langue maternelle et le savoir indigène à leurs enfants en même temps qu'ils apprenaient l'espagnol et la science à l'école, et donc de mettre au point des programmes d'éducation bilingue et interculturelle dans les écoles villageoises indigènes. Et ça pour une vingtaine de peuples parlant des langues différentes entre elles. Donc c'est un vaste programme d'éducation bilingue et interculturelle qui est assez exemplaire au niveau planétaire, c'est-à-dire que ces gens savent que pour survivre, ils doivent venir vers nous, mais alors ils sont d'accord de greffer notre savoir au leur, et ils cherchent pas à fuir le monde technologique, ni européen. Mais en fait, ils viennent beaucoup plus vers nous au niveau conceptuel, linguistique et culturel que nous allons vers eux.
Même ces dernières années?
Ah oui. Et c'est vrai que le programme d'éducation bilingue et interculturelle des peuples indigènes de l'Amazonie péruvienne est un exemple pour le monde au niveau de comment combiner les savoirs, précisément. Comment combiner science et chamanisme en particulier. Ces peuples sont beaucoup plus épistémologiquement ouverts que nous, c'est-à-dire qu'à eux, ça ne leur est jamais venu à l'idée de dire, de disqualifier le savoir des autres simplement parce qu'ils ne ressemblent pas au leur. Ça leur paraît clair qu'ils ont leur façon de voir et que la science est une autre façon de voir et qui peut avoir sa validité. Tandis que nous, pour l'instant, la façon que nous avons eue d'approcher leur système de savoir, c'est de dire tout ça, c'est de la superstition, c'est de la mythologie, c'est faux. C'est de l'imaginaire, c'est enfantin, c'est des primitifs, c'est pas des gens sérieux. Et donc, pendant des siècles, on a priori disqualifié leur façon de connaître le monde. Alors, c'est clair qu'ils sont plus ouverts que nous et ils viennent vers nous plus rapidement que nous n'allons vers eux. Mais pour revenir donc aux activités qui ont été réalisées suite aux démarcations des terres, suite à la mise en place de programmes d'éducation bilingue, il y a maintenant toute une série d'activités productives, par exemple des piscicultures. Alors, c'est vrai que des compagnies pétrolières opérant dans l'Amazonie péruvienne ont pollué les rivières qui sont maintenant vides de poissons. Les indigènes de la région sont des grands mangeurs de poissons. Et donc, simplement pour nourrir leur famille, ils ont mis en place un réseau assez impressionnant de pisciculture indigène dans les communautés. D'abord pour nourrir la famille, mais aussi pour faire du commerce. C'est-à-dire que ces gens ne sont pas opposés à l'idée de faire du commerce. Au contraire, ils cherchent à produire des produits qu'ils peuvent vendre pour participer au marché en leurs propres termes. Et c'est vrai que ce que les indigènes de l'Amazonie péruvienne cherchent à faire, c'est concilier le marché avec l'écologie. Et parce qu'en fait, à la base, ce sont des producteurs durables. Ce sont des gens, ils n'ont pas la réputation de raser la forêt. Oui, ils font des petits jardins qu'ils entretiennent. Et ils ont toujours eu toutes sortes de produits, du cacao, des poules, des fruits sylvestres, du manioc, des plantains. Et leur problème a plutôt été le manque de marché, en fait, parce qu'on est souvent dans des endroits reculés. Donc, en travaillant avec des agronomes qui ont une meilleure compréhension du marché, c'est possible de focaliser des activités comme le cacao, la pisciculture, en fonction de où c'est que ça se trouve. Et les indigènes participent volontiers à ce genre d'activité. Et finalement, en fait, la majorité de la population rurale de l'Amazonie péruvienne est indigène. Ce qui veut dire que si vous voulez travailler avec les êtres humains qui habitent dans cette région à très forte biodiversité, finalement, vous êtes obligé de travailler avec les peuples indigènes de l'Amazonie péruvienne. Et en plus, dans leur système traditionnel de savoir, il y a beaucoup de connaissances à propos du milieu naturel où ils se trouvent et comment l'utiliser d'une façon équilibrée. Donc un dialogue entre on pourrait dire, la sylviculture durable telle qu'elle commence à être conçue dans les universités scientifiques, ça, c'est facilement compatible avec les connaissances indigènes de l'Amazonie péruvienne. Et c'est ce qu'on est en train de voir dans la pratique d'ailleurs.
Justement, pour reparler de cette culture qu'ils ont propre justement à la nature, plusieurs années donc après votre premier livre, dont on rappelle le titre « Le serpent cosmique et l'ADN », vous avez publié en quelque sorte la suite, sans vraiment être la suite, donc ça s'appelait « L'intelligence dans la nature », donc le titre veut dire beaucoup de choses. Et pour ce livre, et dans une démarche donc toujours anthropologique et équitable, vous avez mené une enquête, cette fois-ci, auprès des scientifiques occidentaux, et vous avez constaté que leurs découvertes sont parallèles à ce que les cultures indigènes savent depuis très longtemps, à savoir que tout être vivant, de la cellule à l'être humain, a une conscience, c'est ça ?
C'est ça. C'était un peu ça l'idée. En même temps, mettre en rapport, comme je l'avais fait dans le serpent cosmique, les serpents hallucinatoires et les molécules d'ADN, c'était peut-être un peu pentu pour certains. Alors je me suis dit, prenons le plus petit dénominateur commun. Si je prends la grille de lecture du chamanisme indigène et la grille de lecture de la biologie moléculaire et que je les superpose, ce que je vois, c'est une intelligence dans la nature. C'est ce que les chamans disent depuis longtemps. C'est ce que les scientifiques commencent à découvrir. Donc, effectivement, après avoir étudié les Indiens, et si on étudiait un peu les scientifiques ? Mais alors, en approchant les biologistes comme on approcherait des Indiens d'Amazonie, c'est-à-dire avec beaucoup de respect, et puis en essayant de juste être à leur écoute. C'est vrai qu'en France, vous avez des gens comme Bruno Latour qui font déjà de la science un objet d'étude anthropologique, donc... Je suis de loin pas le premier à avoir eu l'idée d'anthropologiser les scientifiques. Mais toujours est-il que l'expérience était intéressante en prenant cette simple question. Alors, est-ce que les êtres vivants, les brins d'herbe, les mouches, les carottes, etc., est-ce que ce sont des mécanismes, des objets que le savoir objectif peut étudier d'une façon bien cartésienne? Ou est-ce que ce que les chamans disent est plutôt le cas, c'est-à-dire que ce sont des êtres avec une intelligence et une capacité de percevoir le monde? Alors c'est deux manières possibles de voir les choses, et il me semblait qu'il y avait de plus en plus d'indications que la pointe de la recherche scientifique indiquait au contraire que même un brin d'herbe, même une seule cellule végétale ou animale ou bactérielle est capable de percevoir le monde, intégrer toutes sortes d'informations et arriver à des prises de décision. Le mot intelligence vient de interlegere, choisir entre, et implique la capacité de prendre des décisions. Et on retrouve cette capacité de jauger le monde et d'arriver à des décisions justes à tous les niveaux de la nature, même à l'intérieur de nos propres cellules. Et en fait, des scientifiques actuellement qui disent tout ça, ce ne sont que des mécanismes et le fruit de stupides entrechoquements dus au hasard, il y en a plus trop. Au contraire, les scientifiques sont en train d'essayer de mieux comprendre à quel point la nature est activement communicative. Et on étudie les sentiers de signalisation à l'intérieur des cellules et on comprend bien que c'est souvent des problèmes de communication qui sont à la racine des maladies. Donc, les organismes biologiques sont de plus en plus perçus comme étant dans la communication. Il ne s'agit pas simplement de bouts de viande ou de matière, que c'est une matière vivante, informationnelle, et qui communique utilisant des codes que nous commençons à décrypter. Et là, on rejoint encore une fois une lecture un peu chamanique de la nature. Les chamans nous disent depuis longtemps que la nature est remplie de symboles. Eh bien, en fait, une molécule d'ADN est un symbole. C'est un système de codage qui symbolise de l'information pour la façon d'aligner des acides aminés. C'est littéralement une molécule symbolique. Et il suffit de regarder les experts Miami pour savoir que lorsque vous entrez dans une pièce, il y a des kilomètres d'ADN un peu partout. Mmh. Il y a des symboles cachés sous nos yeux en permanence et c'est juste vrai au niveau physico-chimique. Mmh. Et ça confirme ce que les chamans disent. Que alors nos yeux normaux nous cachent tout ça, mais juste tout près de nous, il y a des symboles invisibles dans l'air et celui qui sait voir peut les percevoir et les déchiffrer.
Mais est-ce que ça rejoint, donc pour reprendre la représentation indigène, ce que eux appellent les esprits des plantes, par exemple, ou des animaux, ou c'est quand vous parlez de symboles, vous parlez encore d'autre chose?
Oh ben écoutez, le rapport exact entre les molécules d'ADN bien physiques qui sont dans la pièce et puis ce que les chamans appelleraient esprit, c'est quelque chose qui gagnerait à être plus étudié ou cerné. Peut-être que ce sont simplement des réalités parallèles qui sont liées, peut-être que ce sont des réalités qui n'ont aucun lien entre eux. Je pense qu'il y a beaucoup de mystères déjà pour comprendre qu'est-ce que c'est que l'ADN. Je crois qu'on en est qu'à nos débuts. Quant aux esprits, ils restent difficiles à cerner depuis un certain temps, difficiles à définir même. Donc je pense qu'il convient d'être prudent et d'apprécier le mystère, d'être à l'aise avec le fait qu'il y a beaucoup de mystères et que pour l'instant nous ne pouvons pas savoir exactement ce qui se passe sous notre nez, ni même à l'intérieur de notre tête.
Mmh. Quel sera, si toutefois vous allez continuer à écrire, quel sera votre prochain domaine de recherche? Ou plutôt, sur quoi est-ce que donc vous réfléchissez actuellement? Est-ce que vous allez rester animiste dans votre façon de percevoir le monde et son mystère?
Oh, ben écoutez, je ne sais pas dans quelle catégorie me mettre. Animiste, moi en fait je me mets dans la catégorie agnostique déjà. Oui. Mmh. Qui est que je sais que je ne sais pas en ce qui concerne les causes finales, et je m'intéresse plus à savoir qu'à croire, donc au moins ça c'est clair. Et puis bon, c'est vrai que actuellement je continue à observer le monde et je ne suis pas sûr de du prochain livre que je commettrai. Mmh. Et je sais même à l'époque, je répondais à ce genre de questions, mais plus ça va de l'avant, plus je me dis, j'ai pas trop envie de parler du prochain, jusqu'à ce que je l'écrive. Et puis, plus j'en parlerai avant de l'écrire, moins je l'écrirai peut-être.
Mmh. Si vous voulez bien, on va évoquer, donc, vous avez rencontré donc un jour l'écrivain Maurice Dantec.
Oui.
C'est lui-même dans un de ses écrits qui parlait de sa rencontre donc avec vous et il disait donc dans ce livre que vous aviez évoqué avec lui la télé de la jungle. Ce sont vos propres termes pour décrire les visions sous ayahuasca. Mm-hmm. Et donc il disait dans ce livre qu'une rencontre était programmée. A-t-elle eu lieu comme son dernier roman le laisse pressentir? Je ne sais pas si vous l'avez lu.
Ben non, malheureusement. Peu de temps après cette rencontre et peu de temps avant que nous devions aller en Amazonie ensemble, Maurice a eu un problème de santé et puis ensuite j'ai plus jamais vraiment eu de nouvelles de sa part. Et puis je crois que j'ai envoyé un message une fois ou deux, mais voilà, j'avais cru comprendre qu'il était peut-être pas forcément à un moment facile de sa vie. À la limite, oui, c'est on arrive maintenant, c'était il y a tantôt 9 ans cette affaire-là.
Oui, oui, oui.
Quand il sera prêt à me recontacter, il le fera. Mm-hmm. Et puis je sais bien que Maurice est un gars occupé, puis quant à moi, je m'occupe de mes oignons aussi.
Mm-hmm. Est-ce que vous lisez un peu les romans qu'il publie? Vous suivez un peu son travail?
Pas tout, non.
D'accord. Que pensez-vous, juste cette question, de sa façon de se considérer donc à la fois comme expérimentateur et expérimenté, c'est-à-dire considérer la littérature comme quelque chose qui commence là où la pensée s'arrête? Et on sait que Maurice Dantec est très proche de ce que les occidentaux appellent les états modifiés de conscience, c'est-à-dire qu'il écrit souvent dans ces états-là.
Ouais. si ça marche pour lui et puis si ça marche pour ses lecteurs, qui suis-je pour dire que c'est un mauvais plan? Disons que il y a des bouts de certaines choses qu'il a écrites où j'aimais bien la philosophie qu'il y avait derrière au niveau de l'écriture justement, mais il y a d'autres fois où c'est un style pas très concis. Et puis qui divague, qui part dans tous les sens, et puis voilà, et puis je pense que ça convient à certains. Moi, le fait est que je lis quasiment pas de fiction du tout, parce que je suis toujours en train de lire de la non-fiction, et il y a juste tellement de domaines à suivre que, voilà, c'est des choix. Peut-être que certains pleureront pour moi en pensant tout ce que je perds en ne lisant pas de fiction, mais voilà. Et puis donc, j'ai juste la peine à entrer en matière la plupart du temps avec la plupart des fictions. Et c'est vrai que Maurice, quand il part dans ses stratosphères, j'ai de la peine à le suivre.
Juste pour en terminer avec lui, mais peut-être vous n'avez pas du tout d'opinion là-dessus. Est-ce que vous êtes sensible ou non à sa récente conversion au catholicisme, par exemple?
Oh, chacun est libre de croire ce qu'il veut. Personnellement, je l'ai déjà dit dans cette interview, je me considère comme agnostique, mais Cat Stevens s'est converti à l'islam. Chacun fait ce qu'il veut.
Bon, très bien. Alors, on va revenir à vous. Pour reprendre donc le fil de la conversation, dans le dernier livre qui est sorti l'an dernier, donc Conversation autour de l'ayahuasca et de l'iboga, c'est une libre retranscription d'une conversation, de deux conversations plus exactement, que vous avez eues avec Yann Kounen et Vincent Ravalek.
Oui.
Et on sent donc, à la lecture de ce livre, que parmi les trois protagonistes présents, vous êtes peut-être le seul à avoir une pratique entre guillemets raisonnée de la médecine indigène. Vous le dites d'ailleurs vous-même dans ce livre que vous avez le sentiment d'avoir plutôt la tête sur les épaules. Donc vous gardez, on peut dire que vous gardez un esprit cartésien. La façon dont vous procédez, si j'ai bien compris, c'est de la sorte, c'est-à-dire que vous chauffez quelque part la question qui vous taraude pour qu'elle arrive peut-être à sa quintessence, et à ce moment-là vous retournez là-bas pour participer donc à une session de médecine indigène et pour obtenir peut-être une ou plusieurs réponses qui vous serviront de réflexion pour les mois ou les années à venir.
Oui, oui, vous dites si bien les choses. Et vous voulez que j'approfondisse ça?
Oui, si possible.
Ok. D'abord, le rationalisme, appelons-le comme ça, le fait de mesurer les choses et puis de le faire un peu longuement, sérieusement, en prenant des notes et tout ça, dans une démarche un peu délibérée dans le temps, c'est clair que ça a du bon. D'abord, ça fait partie de notre culture, c'est une méthode qui a déjà montré des résultats extraordinaires, et il s'agit en tout cas pas de jeter le bébé avec l'eau du bain, au contraire, mais d'utiliser les outils que nous avons à disposition. Alors, c'est vrai que moi, j'ai été formé dans le rationalisme humaniste, matérialiste, on va dire comme ça. Et puis après une formation universitaire, c'est quand même, je sais lire, je sais écrire, donc je ne veux pas me priver ni de livres, ni d'écriture, ni de ma calculette, et puis de pouvoir réfléchir numériquement. Et puis en même temps, de revoir tout ça d'un autre angle, et de sortir du rationalisme et d'aller dans ce qu'on appelle l'irrationnel ou le non-rationnel, ou disons les états modifiés de conscience, surtout bien guidés par un bon chaman indigène qui connaît bien ses plantes.
Il faut le rappeler, oui.
Moi, en tant que rationaliste, qui est plutôt de la peine à sortir naturellement du rationnel, d'utiliser ces outils végétaux avec des maestros qui savent y faire, ça m'enrichit clairement, ça me donne un angle, c'est une sorte de caméra inverse, caméra inversée, et c'est vrai que en même temps ce sont des expériences qui sont comme aller en haute mer sur un voilier, c'est-à-dire que ça se fait une fois par an en ce qui me concerne. Il n'y a pas vraiment besoin d'y aller beaucoup plus que ça. Et les autres 11 mois peuvent servir justement à se préparer pour la prochaine expédition et à réfléchir bien bien et à essayer de mettre en pratique ce qu'on a déjà appris la dernière fois, puis de montrer qu'on est un gars sérieux. Et puis ensuite, petit à petit, à force de faire des allers-retours et entre 11 mois de rationalisme et un mois en Amazonie, bon, tout ça, c'est quand je dis 11 mois et un mois, c'est un peu des images.
Oui, bien sûr.
Mais en gros, d'avoir une démarche comme ça fait d'aller-retour graduellement à travers le temps, comme une sorte de tissage de droite à gauche, puis de gauche à droite, et ainsi de suite. Et assez finalement, vous avez un tapis.
Et vous disiez, quelquefois les réponses que vous apportez, donc l'ayahuasca, qui on le rappelle est une médecine indigène, avaient la plupart du temps des relents très pragmatiques, en fin de compte. Justement des...
Oui, c'est souvent assez fulgurant, assez visuel, assez ahurissant de pertinence et d'intelligence. Et ce qui est troublant, c'est l'impression que j'ai... c'est plutôt d'avoir affaire à une sorte de sage chinois où c'est ni masculin ni féminin, c'est assez détaché, c'est assez aiguisé, ça voit à travers toutes vos faiblesses et vos prétentions, ça vous démasque vite fait, bien fait, et puis voilà, très souvent... ça vous montre ce que vous avez besoin de savoir sans que vous ne le sachiez. Et même parfois sans que vous n'ayez vraiment envie de le savoir. Et d'ailleurs, ça c'est une chose, on aimerait parfois réfléchir à des questions abstraites sur l'intelligence dans la nature ou je ne sais quoi. Mais avant d'accéder à ce genre d'informations, vous devez déjà nettoyer votre propre grenier, ce qui est souvent assez pénible. Donc... la plante, elle va vous montrer des choses pénibles à propos de vous-même pour que vous nettoyiez bien votre système avant de procéder à vous transmettre d'autres informations.
C'est une plante intelligente, on peut le dire.
Disons, c'est l'expérience qu'on peut en faire, oui. C'est vrai. Et en même temps, c'est un peu une épreuve, c'est un peu comme aller chez le dentiste finalement. C'est-à-dire qu'on n'a jamais trop envie d'y aller, mais une fois qu'on y est allé et qu'on en sort, on trouve que ça valait la peine.
D'accord. Alors, pour continuer donc avec le lien donc avec ce livre, que vous avez donc coécrit avec Yann Kounen, qui est réalisateur donc de films, et Vincent Ravalec, qui lui aussi est écrivain, vous venez de participer donc le 4 juin dernier à l'INRES, à Paris, à la nuit du chaman, donc avec ses trois protagonistes. Mais est également présent pour cette occasion un médecin psychiatre qui s'appelle donc Olivier Chambon, que nous avons interrogé ici à la radio, plus axé sur la thérapeutique, lui, mais à base de psychédéliques. Comment s'est passée la rencontre? Je pense que vous avez évoqué, notamment lors de cette conférence, le problème qu'avait l'Occident avec justement les états modifiés de conscience.
Oui, j'ai trouvé que la conférence était sympathique. C'est la première fois que je faisais la connaissance d'Olivier Chambon. Et en fait, on pourrait dire que la mayonnaise a pris entre lui et les trois autres. Les trois autres qui avions déjà fait tout un livre ensemble. Et en fait, Olivier Chambon, c'était le seul médecin praticien de l'équipe. Donc ça a ajouté un angle qui nous manquait jusque-là. Et puis oui, on a abordé toutes sortes de questions. C'est vrai que dans mes écrits, j'ai quand même coédité une anthologie avec Francis Huxley sur 500 ans d'écriture sur le chamanisme.
Qui est ressorti en poche d'ailleurs, on peut le dire.
Qui vient de ressortir en poche, ouais. Et puis donc, je pouvais apporter à ce débat une perspective historique que peut-être les autres n'avaient pas. Et donc, à un moment donné, j'ai parlé du fait que la difficulté que les cultures occidentales avaient à entrer en matière avec les états modifiés de conscience était d'origine historique. Et ça remonte à... il suffit de regarder l'attitude des églises chrétiennes au 16e, 17e, 18e siècle encore par rapport à tout ce qui était chaman et ainsi de suite. C'est-à-dire que l'Inquisition a mis à mort un grand nombre de chamans de par le monde. Et ensuite, lorsqu'on regarde les premiers rationalistes, à partir du milieu du XVIIIe siècle, si on regarde la définition du mot chaman dans l'encyclopédie de Diderot en 1765, c'est la première définition donnée pour le mot chaman. Ce sont des imposteurs qui prétendent avoir de l'influence sur le diable, mais qui ne font que tromper un peuple superstitieux et imbécile. Donc, les chamans étaient perçus comme des ministres du diable par les prêtres et ensuite par les premiers rationalistes comme des gens qui étaient dans un faux savoir, des imposteurs. Alors, pendant les 400 ans de 1500 à 1900, la plupart des textes qui sont écrits par des occidentaux et qui décrivent des chamans sont péjoratifs. Ça fait déjà, on va dire, 500 ans que, au bas mot, que la culture judéo-chrétienne et ensuite rationaliste a de la peine avec ses états de conscience ni tout à fait catholique, ni tout à fait rationnel.
Et est-ce que vous croyez comme lui donc à l'intérêt d'une collaboration entre les chamans et les praticiens cliniques? Enfin, ça reste une utopie pour lui, mais quelque part c'est une des conclusions de son livre. Après avoir reconnu donc les médicaments psychédéliques dans la pharmacopée occidentale.
Oui. Hein? Ben, écoutez, disons ce que je peux déjà dire de mon côté, c'est que j'ai réuni plusieurs fois déjà soit des biologistes moléculaires, oui, soit des médecins, ou un médecin en particulier, avec des chamans de l'Amazonie péruvienne, avec succès. Cette fois-ci, il s'agit d'un médecin qui cherche un remède pour la tuberculose, qui est une maladie qui tue environ 2 millions de personnes, surtout pauvres, par an. Puisqu'il s'agit souvent de pauvres, les compagnies pharmaceutiques ne sont pas très intéressées. Et pour l'instant, on n'a pas encore trouvé de remède. Et ce médecin américain qui dirige un institut pour la recherche sur la tuberculose à Chicago m'a demandé d'établir une collaboration entre lui-même et un chaman indigène péruvien. Et c'est clair que c'est assez facile, si les esprits sont ouverts, de réunir ces praticiens, même que tout semble les opposer entre le laboratoire high-tech à Chicago et puis le jardin aux plantes hallucinogènes dans la forêt péruvienne. On dirait que c'est deux mondes à part. Mais finalement, tous les deux cherchent à soulager les souffrances des gens en utilisant des plantes et des substances et des traitements. Et effectivement, il y a toutes sortes de plantes dans cette forêt amazonienne que la science ne connaît pas, dont une que ce chaman utilise pour traiter la tuberculose, et qu'il a donnée à son ami scientifique pour qu'il le ramène dans le laboratoire dans le but de développer un remède le meilleur marché possible pour soulager les gens qui ont la tuberculose. Et pour l'instant, des recherches sont en cours qui confirme d'une façon préliminaire l'activité antituberculeuse de cette plante, d'accord, qui n'a même pas un nom latin. Alors donc, oui, les collaborations entre un scientifique et un chaman, il n'y a rien de plus facile et rien de plus normal. Ce qui est plutôt étonnant, c'est que ça ne se soit pas fait avant, quand on considère que le chamanisme ou les chamanismes sont les traditions de guérison les plus anciennes, et que ces traditions n'ont même pas été jaugées par la science pour l'instant. Donc, ça me paraît clair que la science et le chamanisme, ou en tout cas les scientifiques et les chamans, aurait toutes sortes de choses à se dire.
Mais donc en fait, Olivier Chambon parlait de collaboration entre les chamans et les praticiens cliniques. Attention,
c'est-à-dire. Oui, ben écoutez, ouais, moi les praticiens cliniques, je les connais pas très bien. Ouais. Et lui,
il semble être le seul,
d'ailleurs. Peut-être mieux de quoi il parle.
Ouais.
Mais là,
bah, je pense qu'en France, il doit être un peu esselé, en vérité.
Ouais, sans doute. Ouais, ben c'est le genre de choses où il faut du temps et puis finalement, comment dire, ce que j'ai pu voir pour l'instant, c'est que c'est plutôt la recherche dans la marge, là où il n'y a pas trop de pression, où on peut réaliser ce genre de rencontres. Et justement, ça dépend du bon vouloir des individus. Ce médecin américain dont je parlais et ce chaman péruvien, ma foi, c'est juste deux individus qui s'entendent et qui ont envie de travailler ensemble. Et ensuite, on va voir ce que ça produit. C'est une sorte d'expérimentation marginale qu'on est en train d'essayer là. Et puis, en plus, s'y entendent. Alors... on n'a pas besoin que tous les cliniciens de France soient d'accord et ainsi de suite.
J'avais une dernière question, donc vous concernant plus directement. Vous êtes publiquement assez discret, tant au niveau de la production littéraire, bon, même si c'est pas votre, vous n'êtes pas écrivain de formation. Et pourtant, vous faites souvent figure de référent. Je pense notamment à Yann Kounen, qui, suite à la lecture du Serpent Cosmique, lui a donné l'envie d'aller là-bas tenter l'expérience. Comment est-ce que vous expliquez ce paradoxe?
Je suis pas sûr de saisir parce que, en fait, la plupart du temps qu'on m'invite à venir donner des conférences, j'y vais. Quand des journalistes m'appellent pour des interviews, je les donne. Je publie des livres quand même assez régulièrement. Par contre, c'est vrai que, je sais pas, si je passe pas à la télé, c'est parce qu'on m'invite pas à la télé, mais je m'en plains pas. Hein. Mais je pense que c'est le genre de sujet, justement, c'est des sujets un peu marginaux, et ça intéresse intensément une minorité de la population, ce qui fait que dans certains cadres, il y a de l'enthousiasme et tout ça, mais à part ça, ça reste en dessous du radar, on pourrait dire. Et puis en fait, ouais, moi d'un côté, je trouve que c'est parfait comme ça, parce que si on regarde la piètre qualité du débat à la télévision, c'est-à-dire oui, ok, c'est une possibilité d'être vu par un très grand nombre, et au lieu de donner 40 conférences devant 1000 personnes, on peut aller une seule fois à la télé puis être vu par 5 fois ce nombre-là ou plus. Donc, d'un côté, on pourrait se dire que c'est bien d'aller à la télé pour faire passer le message. Puis, d'un autre côté, quand on voit à quel point c'est dur de faire passer quoi que ce soit d'intelligent à la télévision à cause du cadre, c'est peut-être même une chance de ne pas diluer le message
d'être préservé
en ne le mettant pas dans des flaconnages pareils.
Vous serez présent donc dans le sud en septembre, à Cadenet.
Voilà, vous voyez la preuve que je sors de mon Jura.
Voilà. À l'invitation donc d'une organisation qui s'appelle Planète Honnête, et le thème donc ce sera le cerveau des peuples premiers à l'intelligence artificielle. Et donc est-ce que vous pouvez peut-être nous parler du thème de votre intervention?
Ouais, ben ça va tourner un petit peu autour de tout ce dont on a parlé aujourd'hui. Oui. En fait, les organisateurs m'ont demandé de parler d'intelligence dans la nature.
D'accord.
Donc en gros, ça va être, je vais raconter cette investigation-là, mais c'est clair que tout est lié. Ça veut dire que ce qui concerne aussi mes autres livres et toutes les questions dont on a parlé aujourd'hui, tout ça, ce sera quand même au menu.
Je vous laisse le mot de la fin, si vous voulez ajouter quelque chose.
Bah, disons juste par rapport à vos deux dernières questions.
Oui.
Lorsqu'il y a un bon cadre ou un cadre qui, à mon avis, est digne du sujet, comme ce que Planète Honnête propose en septembre, je suis tout heureux de venir m'exprimer dans ce cadre. Le problème, entre guillemets, c'est qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de bons cadres pour l'instant, mais ça vient. Et donc ça répond peut-être à votre question sur la discrétion. Pour l'instant, les bons cadres sont discrets.
Vous préférez la qualité à la quantité?
Ouais, puis d'ailleurs, alors votre émission, ce serait un petit peu la même chose dans ce sens-là.
Eh bien, en tout cas, merci beaucoup, Jérémy Larguin.
Merci à vous pour le bon cadre.
Voilà, merci. Et on vous souhaite bonne route. Et donc, sans doute très prochainement, dans le sud de la France, à Cadenet. On rappellera les dates très prochainement. Merci beaucoup.
Ok, merci.